Pourquoi est-ce que je dis ça? Mais parce que par exemple, tu vois là, Alessandro Michele arrête. Et donc, à quoi va ressembler Gucci? Gucci restera Gucci, mais ce sera fini les Pat Def et les années 70, ils étaient vraiment complètement liés à lui. Et Alessandro Michele, finalement, il est resté 5 ans. Et avant Gucci, avant ça, c'était pas du tout ce style. Donc, tu as cette vision-là de maintenant, mais si tu réfléchis à Gucci sur son histoire récente, tu peux pas penser à une innovation ou à un élément unique chez Gucci. Parce que les Pat Def, tu les trouves ailleurs, et les inspirations des années 70, tu les trouves ailleurs aussi. Tu vois, c'est ça que je voulais dire, c'est que avant, tu avais cette notion d'innovation et de marque pionnière. Et encore aujourd'hui, quand tu parles de la wrap dress, tu parles de Diane von Furstenberg. Quand tu parles du tailleur pour femmes, tu parles de Saint Laurent. Et donc, tu as ce truc mythique que tu n'as plus maintenant. Maintenant, tu voilà, si Alessandro Michele se retrouve il va chez Fendi, tu vas retrouver les influences des années 70, des Pat Def chez Fendi, donc ce ne sera pas lié à Gucci, ce sera lié. C'est ça que je voulais dire. Et que finalement, mais ce n'est pas pour autant que je cautionne, parce que moi, je suis vraiment dans le soutien des créateurs et du design, de ce qu'ils peuvent apporter. Pour moi, d'ailleurs, c'est encore plus important les jeunes petits créateurs qui vont innover, qui vont faire des expériences, parce que le design, pour moi, doit primer. Mais malheureusement, ça reste une très, très grosse industrie avec énormément d'enjeux économiques. Et donc, la marque, en termes de marketing, pour moi, reste malheureusement de l'inconscient la chose qui prime aujourd'hui.
Ah oui, c'est vrai que moi, j'avais une vision plus serrée sur les dernières collections, alors qu'il faut voir ensemble.
Ouais.
Quelqu'un.
Quel a été pour vous le...
N'oubliez pas aussi de vous présenter, peut-être que c'est important.
Je m'appelle Lisa, je suis en communication aussi à l'UB.
Ouais. C'est en communication, est-ce que tu as choisi une spécialité ou pas?
Oui, communication politique, mais je compte me réorienter
d'accord.
Prochaine et aller à l'IEX en RP.
Ouais. En RP, trop
ouais,
cool.
C'est ça. Du coup, voilà, mais je voulais savoir, votre meilleur défilé, c'était quoi exactement, le défilé le plus incroyable?
Alors, en termes de setup, les défilés Chanel à l'époque de Karl Lagerfeld étaient très très impressionnants. Il y avait des fusées, il y avait un supermarché. Moi, je me souviens l'avant-dernier qu'il a fait, parce que le tout dernier c'était les chalets en Suisse. L'avant-dernier, c'était il avait fait une vraie plage, donc on était dans le Grand Palais, qui est donc ce grand bâtiment avec une verrière qui est un. Et en fait, il avait vraiment fait une plage avec une marée. Donc, il y avait un ciel, il y avait l'eau, il y avait la plage. Et alors, l'eau bougeait, il y avait de l'écume. Et c'était un truc de fou. Et les filles défilaient dedans. Ça m'avait vraiment marqué en termes de scénographie. Sinon, en termes de mode, j'adore les défilés des écoles de mode. Ça, c'est génial. Donc, la Cambre ici à Bruxelles ou l'Académie d'Anvers. En fait, on ressent une énergie créative quand le créateur n'a pas encore de guidelines ou il ne doit pas répondre à des conditions commerciales. Et c'est vraiment génial parce que là, ils réinventent vraiment le vêtement. Ils font des choses qui sont des sculptures et il y a beaucoup, c'est vraiment, il y a un foisonnement d'idées et j'aime beaucoup cette énergie. Donc finalement, on n'a pas besoin d'aller loin pour être inspiré.
Donc, moi, je ne me m'étais pas présentée, donc je m'appelle Estelle et du coup, je suis en économie, ici, à Solvay. Mm. Et en fait, moi, je voulais savoir, parce que moi, j'aime beaucoup la mode et tout, et j'ai toujours voulu avoir une main ou faire quelque chose, mais j'ai l'impression qu'en fait, je suis vraiment limitée, que je ne peux rien en faire.
Pourquoi?
Mais parce que, après, donc, vous allez dire le contraire, mais j'ai l'impression qu'en Belgique, on n'a pas énormément de... Je veux dire, je sais pas, par exemple, si je veux postuler dans une agence de communication ou une agence de stylisme, j'ai l'impression qu'on l'a peu par rapport à d'autres pays. Mais après, peut-être que dans d'autres pays, il y a plus de concurrence aussi. Et donc, c'est plutôt...
Déjà, oui, la Belgique étant plus petite, tu as beaucoup moins de propositions. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Et moi, ce que j'aime, c'est que souvent, il y a plus de possibilités d'évolution. Parce que le marché est plus petit. Moi, j'ai été rédactrice en chef à 30 ans. J'étais la première rédactrice en chef si jeune d'un magazine, tu vois. En tout cas, pour le réseau Duel, parce qu'il y avait Hélène Wetteroth au Vogue. Et en fait, ça dépend de ce que tu veux faire exactement. Si toi, tu rêves d'être... après, tu me parles d'économie. Je ne sais pas si tu rêves d'être directrice finance. Tu fais quoi exactement?
Mais donc là, je suis qu'en deuxième année.
Ouais.
Mais c'est, enfin, je ne compte pas forcément aller vers l'économie.
Ok.
Je le fais juste comme ça. Non, pas comme ça. Comment je pourrais expliquer? Mais bon, je ne sais pas, pour avoir un diplôme, quoi. C'est pour ça que
d'accord.
Je le fais.
Mais ouais. Tu sais que ça, c'est un truc que tu ne dois pas prendre à la légère, parce que les 5 ans que tu fais maintenant vont être hyper déterminants sur ta place dans le marché du travail. Et tu dois vraiment saisir, moi je vois vraiment ça comme une opportunité, et si tu n'aimes pas globalement l'économie, tu trouves ton créneau là-dedans, ou trouve déjà un métier qui t'inspire dans ce secteur-là. Parce que c'est en buildant déjà maintenant tes connexions, ton apprentissage, etc., au-delà de ce que tu vas apprendre à l'école, que tu vas pouvoir être passionné, t'investir, mais surtout être déjà hyper valuable sur le marché du travail. Donc, soit tu te réorientes, soit tu dis, ok, voilà tout ce qui est possible de faire dans ce secteur. Tu vois, si tu veux chercher dans le secteur de la mode, va voir sur fashionjobs.com, par exemple, tous les jobs qui existent dans l'économie, et focus-toi sur certaines choses plus précises qui là t'excitent, parce que l'économie, c'est vrai que ça fait un peu genre boring, mais en fait tu peux trouver des postes hyper passionnants, voire même créatifs, dans la mesure où l'industrie de la mode ne fonctionne pas sans l'économie. Yves Saint Laurent ne fonctionne pas sans Pierre Berger. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de créateurs ont besoin de personnes qui vont les aider à monter leur business, à réfléchir en chiffres, à être commercial, à vendre. Et tout ça, c'est des gens qui vous doivent aider la création. Et c'est créatif, parce que quand tu as un créateur qui lance une collection et qu'il faut réfléchir avec un business plan, un business model, un marché, etc., on a besoin de cerveau dans l'économie. Donc, si toi, tu trouves un job qui peut t'emballer dans ce milieu-là, alors vas-y, plonge-toi, et déjà dès maintenant, tu réfléchis, tu mets tout en place, tous tes projets, tes travaux, tes connexions, tes stages, tu les fais en fonction. Il ne faut vraiment pas prendre à la légère les études que tu fais.
Non, clairement. Enfin, je sais qu'il y a des postes comme bailleur,
oui.
Acheteur, etc.
Oui.
Et je sais que voilà, en ce moment, il requiert des diplômes en économie, etc.
Oui.
Mais donc, je me dis, un
ça, peu. C'est très, ça, c'est super intéressant,
oui,
hein,
voilà,
acheteur.
C'est ça.
Oui.
Vas-y, je te dis. Donc moi, je m'appelle Fatima, je suis en communication à l'UX, option relations publiques.
Ok.
Et moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez une idée ou un nom d'une blogueuse qui ressemblerait à une installation, enfin, pas physiquement, mais son travail à l'échelle belge, qui est en vogue ou qui va être.
Très bonne question. Qui ressemble à l'ENA situation. Non, il n'y en a pas. En Belgique, on a des youtubeuses comme, je sais pas, Gaëlle Garcia-Diaz ou Luffy, ce genre de personnes, mais qui ont moins l'aspect. Par exemple, Gaëlle, que je connais très bien, elle a vraiment l'aspect beauté, elle n'a pas l'aspect mode, moins lifestyle. Luffy, elle est plus beauté, mais elle ne va pas être invitée dans des défilés. Donc, la situation, pour moi, elle est vraiment une exception en tant que telle, parce qu'elle a vraiment réussi à développer ses réseaux dans beaucoup de domaines. Mais non, en Belgique, non. Les influenceuses en Belgique, il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à la Hollande ou la France, par exemple. Mais vous suivez qui, vous, par exemple, comme influenceuse belge qui vous inspire vraiment? Qui vous influence vraiment?
Chloé Kitterio.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'à la langue, elle pose toujours le même type de contenu, mais c'est pas très enrichissant.
Ouais.
Elle a toujours la même idée, etc.
Belge, honnêtement, aucune.
Ouais.
Parce que, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que. Je sais pas s'il manque quelque chose ici, ou si peut-être les gens sont pas si intéressés que ça, mais je trouve qu'on. Je sais qu'on peut faire mieux, hein. J'ai l'impression que le monde de l'influence n'est pas encore imprégné dans la culture ici, quoi.
belge.
Moi, je follow plus des gens des UK, des US,
ouais.
Même de la Hollande, mais c'est dommage que ici on n'ait pas.
Ouais, c'est vrai. On a un marché qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus nivelé.
Et puis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui partent, qui quittent la Belgique pour aller en France parce que tous les événements sont là-bas.
Aussi. Ouais. Aussi. Ouais. Il y a plus d'opportunités.
Et d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer tout ça ? Que nous aussi, on devienne...
Des influenceuses ?
Enfin, je veux dire la Belgique en soi. Que...
Alors moi, j'ai l'impression que ça change de plus en plus. Je parlais avec une amie à moi hier, justement, qui est influenceuse et qui travaille beaucoup sur Paris. Et qui me disait qu'elle avait de plus en plus de collabs en Belgique parce qu'en fait, elle est influenceuse plus size. Elle est sexologue, donc elle parle beaucoup de cul, etc. Donc elle a à la fois le côté informatif et le côté mode parce qu'elle s'habille et elle montre comment mettre en avant son corps quand on est plus size. Et longtemps, elle a été un peu rejetée du marché belge parce que trop extravagante, parce que pas assez lisse. Et du coup, elle travaille énormément en France. Et maintenant, elle me dit qu'elle a de plus en plus de collabs en Belgique parce que les marques, parce que les consommateurs demandent plus d'inclusivité, sont un peu forcés à ouvrir un petit peu leur demande et leur critères de sélection des influenceuses. Et donc, c'est ça, en fait, qui va permettre de créer du travail et qui va permettre aux talents un peu différents de sortir et de travailler. Et puis aussi parce que je pense qu'on va atteindre une certaine génération. Instagram est dans une phase maintenant où c'est devenu un média qui n'est plus neuf, donc c'est plus la nouveauté, c'est-à-dire que les tout jeunes ne vont plus sur Instagram. C'est comme Facebook, ce sont devenus des réseaux sociaux qui sont là, qui sont implantés et qui font face à la concurrence de nouvelles plateformes beaucoup plus jeunes. Et donc, forcément, les influenceuses qui ont fait de l'argent et qui travaillent sur ces plateformes vont devoir se renouveler aussi parce qu'elles font face à une cible plus âgée aussi. Que les jeunes trentenaires de maintenant, quand on avait 20 ans et qu'on pouvait satisfaire de simplement une vidéo qui nous explique comment porter un outfit, aujourd'hui, elles veulent du fond. Donc, il va y avoir, je pense, un écrémage entre les influenceuses qui vont devoir se réinventer, être plus créatives. Et donc, ça va créer, à mon avis, plus de créativité, même en Belgique. Donc, c'est vers ça que j'espère qu'on va aller.
Ce ne serait pas à mal taille.
Si. Elle est cool. Et tu vois qu'elle a un propos qui est complètement différent des autres influenceuses belges qu'on a l'habitude d'avoir. Elle est beaucoup plus cash, elle est beaucoup plus... Et c'est assez c'est frais, en fait. Ça fait du bien.
I'm Selena and I'm a photographer.
Yes.
And I'm studying in Antwerp. And I'm curious how I can get a job or make cooperation at least with the magazine, because now I'm looking for any opportunity how to get in this fashion world, in this
I think it's really complicated to just arrive and to knock at the door of a magazine and just say, hi, I want to work with you. Actually, to be honest, I will never, you know, hire you like this. How it works now is that you have to do a portfolio or at least use your social networks to show your work. Maybe have collaboration with, you know, personalities or model you like who are also like new faces. And then have a lot of work, and then you can present it and show it to the magazine. Because you know how much it costs to produce a shooting. It's a lot of money. Before, the magazine had a lot of money and could do shootings, and if something doesn't work, you can change. Now it's a lot of money, so when we choose a photographer, we need to be sure that he can manage the setting, that he can manage the light, that he's very good at what he's doing. So I would say that first have a maximum of examples, portfolio and shooting that you can do on your own, and then you can try to call an art director, because this is my art director who choose the photographer to work with. For example, here in Brussels you have MAD, which is oftenly doing some exhibition for a new photographer, and they show and it displays the work of the new photographer, it's also for us a way to see who is upcoming, who are the new, you know, great eyes for the next for the new generation of photographers. So if you can also be part of this kind of exhibition, it's also a good way to connect with the magazines. So yes, I will say that. But I mean, it's possible. We do it. We work with new photographer depending on their work and the mood we have for a specific shooting. But you have first to prove yourself through your work and things you can present. But yeah, it's a nice challenge.
D'opportunités dans ce
ouais.
domaine-là. Est-ce que vous me conseillez de créer quelque chose par moi-même?
Oui.
Là, je suis en train de créer un podcast avec une amie.
Trop bien.
Et ou peut-être se lancer dans le journalisme, parce que parfois on est un peu, on dit oui, le journalisme, c'est compliqué, tu risques de peut-être pas trouver ta voix.
Fais ce que tu as envie de faire. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir tous les moyens à notre disposition. Tu prends ton téléphone, tu fais un podcast. Tu prends ton téléphone, tu fais une chaîne YouTube et tu fais ta propre émission. Je pense que vous avez l'opportunité maintenant de tester les formats, de vous tester, d'apprendre par essai et erreur. Donc, il faut y aller. Et il faut pas avoir peur de journalisme, de termes, c'est fini maintenant, les espèces de grandes vocations, où il fallait être journaliste pour pouvoir... Non, aujourd'hui, si tu as une vraie capacité à interviewer, à poser des questions, à creuser des sujets, etc., vas-y, peu importe que tu sois journaliste ou pas journaliste, tu le deviens à force, en fait. Donc, franchement, en plus, tout est possible. Et il faut tester. Et plus c'est authentique, plus c'est personnel, plus c'est ta propre voix, plus tu auras des chances de trouver une audience. Donc franchement, vas-y. Et si tu veux te développer à l'étranger, c'est aussi une des meilleures cartes de visite de montrer ce que tu as déjà fait, d'avoir déjà testé plein de choses et de te faire repérer aussi. Du coup, il faut que tu choisisses aussi le langage dans lequel tu vas travailler en fonction de quel marché tu veux viser, si c'est la France ou si c'est plus loin. Parce que le français peut parfois aussi être un peu contraignant. Donc oui, franchement, vas-y, quoi. Vas-y, utilise... En fait, il faut utiliser ces études pour se faire des contacts, pour comprendre, pour éveiller son esprit. Mais à côté de ça, développez vos propres canaux, développez vos réseaux, développez votre expérience. En fait, c'est pas monolithique, c'est pas je fais mes études et puis j'ai mon diplôme, c'est fait, et puis je commence à travailler. Non. Profitez du temps que vous avez maintenant pour être créatif et pour vous inspirer, pour vous enrichir. Et c'est vraiment les années les plus cool pour se construire, en fait, maintenant.
J'ai encore deux questions, désolé.
Vas-y, je t'en prie.
Je voulais savoir si on voudrait faire un stage dans votre magasin, comment
ouais.
est-ce qu'on pourrait procéder?
Là, on va droit au but.
Alors nous, moi je n'ai pas de stagiaire au print parce que comme je disais tout à l'heure, maintenant on travaille avec des freelances, chaque page correspond à un montant et donc je garde mes pages pour des personnes que je rémunère et que les stages sont pas rémunérés en Belgique et que donc voilà. Et puis aussi les lectrices payent un montant pour acheter un magazine, donc je leur garantis toujours que ce soit des professionnels à 100% qui écrivent dedans. Par contre, on a des stagiaires sur le web. Et ça, donc j'invite toujours à envoyer un mail à la rédactrice en chef web qui s'appelle Marie-Noël, mais qui souvent fait une première sélection sur base des études. Donc si tu as déjà une spécialisation en journalisme ou pas, pour être honnête. Si jamais tu veux absolument faire ça et que tu as des exemples d'articles que tu as déjà écrits ou de choses que tu as écrites, de podcasts que tu as fait, etc., c'est bienvenu aussi pour montrer que tu as une plume, que tu as une bonne orthographe, que tu es curieuse, que tu peux facilement... parce qu'en fait, nous, nos stagiaires, très rapidement, on va les envoyer à des événements, elles doivent revenir avec du matériel, etc., donc il faut prouver qu'on est capable de le faire. Et ça, c'est en envoyant un mail à Marino.
Même dans le cadre de la communication
Alors nous, on a la rédaction du L où là, c'est plus des journalistes, mais aussi on a d'autres départements. On a le département marketing, commercial, event, qui sont tous liés de près ou de loin à la communication. Et où, voilà, il faut juste décider ce que tu veux faire concrètement ou dessouder dans ton stage, quoi. Le truc, c'est qu'on a toujours la tendance à dire que la communication, c'est un peu fourre-tout et que ça mène à tout. Ça, c'est un truc voilà, qui, pour moi, c'est un petit peu risqué parce que, comme justement je dis depuis le début, qu'en fait, dès le début, il faut se spécialiser, faire ses connexions, etc. J'ai toujours un peu peur de dire aux gens « vous verrez bien ». Parce que pareil, c'est un marché qui est tellement concurrentiel que je pense qu'il faut essayer au plus tôt de savoir ce qu'on veut et se perfectionner là-dedans. Parce que qu'est-ce qui fera la différence entre toi et une autre personne? Bah, c'est que toi, tu sais exactement où tu veux aller, tu sais déjà exactement de quoi tu veux parler. Donc si tu sais déjà maintenant que tu veux travailler dans le journalisme, bah, moi je te conseille de t'orienter là-dedans tout de suite, quoi, tu vois. Après, c'est pas exclu que tu y arrives, hein, mais ce sera plus compliqué et je vois à quel point c'est pas facile aujourd'hui. Donc il faut y aller à fond. Moi, les gens que j'engage aujourd'hui, c'est les gens les plus passionnés, c'est les gens qui font à fond, quoi, tu vois. Donc ouais.
Est-ce que tu as déjà vu des gens qui n'ont pas réalisé tout le travail qu'il fallait assumer derrière, genre qui sont venus super motivés et qui n'ont pas pu continuer ou...
Ouais, ça arrive, on en a encore une récemment. Qui était une nana qui vendait voilà, plein de choses, qui n'avait pas du tout fait le journalisme, mais qui disait qu'elle était super motivée et qui avait fait plein de choses dans sa vie, mais qui finalement, quand elle a cru qu'elle allait venir et que la rédaction c'était que des paillettes et du glamour et qu'elle allait faire des shootings et qu'on lui a dit ben non, en fait il faut bosser, il faut écrire, il faut dérocher, il faut aller voir quelqu'un, il faut l'enregistrer pendant 1h30, rentrer au bureau, dérocher, écrire ton papier, qu'on te dise que c'est bon, que c'est pas bon, et la réalité en fait, parce qu'elle a pas fait ces études là, parce qu'elle a pas fait ce stage là avant, la réalité était un peu confrontante, donc elle a fait une semaine, deux semaines, et puis après elle a dit non, mais moi ça, c'est trop. Parce que parfois on a tendance à idéaliser aussi ce métier, à se dire on les voit au Fashion Week, etc. Mais derrière ça reste un taf et il faut aimer en fait la base de ce taf, c'est-à-dire rencontrer des gens, les interviewer, faire des reportages, écrire des reportages. Voilà, ça reste la base de ce métier. Et donc... les études permettent aussi à préparer à ça, en fait.
Avec des amis, on compte venir aux 20 ans d'anniversaire à la soirée.
Au Bloody.
Mais on ne sait pas trop comment
s'habiller. C'est année 2000.
Tu as fait une vidéo que j'avais vue.
Ouais. Donc, c'est année 2000. Donc, vous voyez un peu les tendances des années 2000. Si vous avez en tête l'époque de Christina Aguilera, de Britney Spears, de Jennifer Lopez, de J-Lo, etc., etc., c'était un peu comme ça. Moi, perso, je vais être en robe total look jeans avec des bottes en jeans compensées et j'aurai une petite veste fluo. Voilà. Sinon, je pense que j'ai des collègues qui vont avoir un petit top en mèche, un peu transparent, avec un pantalon baggy, des talons. On va jouer sur les strass, sur le bling-bling, sur les lunettes un peu oversize transparentes, voilà. Ou alors les petits tops en papillon, un peu comme... c'est qui cette chanteuse qui fait ça?
Top papillon.
Je sais plus. Donc, voilà. C'est ce style-là. En général, les soirées duel, les gens jouent le jeu, donc il faut se faire plaisir, il faut mettre des pièces voilà, qui sortent de l'ordinaire, on peut mettre des couleurs, on peut être hyper habillé soirée, voilà, c'est ça qui est chouette. Ça fonctionne. Ça fonctionne totalement, t'as compris le thème.
Et du coup, pour ceux qui ne sont pas au courant de comment s'inscrire et venir,
En fait, sur le site duel.be, et moi je vais repartager dans mes stories jusqu'au 23 mars. Le lien, c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire parce qu'il y a un nombre de places limitées pour pouvoir être sur la liste. Et ça commence à partir de 23h. Et donc, on aura des chouettes DJ qui vont passer la musique bien dansant des années 2000. Ça va être cool. Donc, ouais. On va bien s'amuser.
Je vois que Monsieur Souris, du coup, peut-être qu'il a une question.
Ah.
Non, pas
forcément. Lui, il a déjà son outfit.
Qu'est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question?
Ouais.
Vas-y, n'hésite pas.
Il y a la Fashion Week de Paris. Est-ce que vous allez aller défiler?
Moi, j'y vais dimanche. Et en fait, j'ai plusieurs rendez-vous parce que la Fashion Week, c'est pas que les défilés, c'est on profite que le monde entier soit au même endroit pour prendre des rendez-vous avec des gens. Et donc, j'ai des rendez-vous. Mais sinon, je vais au défilé de Valentino, de Chanel et de Vuitton. C'est ceux que j'ai bloqués. Et puis, le reste, je vais faire des rendez-vous et je reste 3 jours et puis je repars.
Et donc, par exemple, là, quand vous allez à des défilés, votre rôle, c'est quoi après?
Après avoir vu le défilé? Bon, alors moi, comme je suis la rédactrice en chef, j'ai vraiment un rôle de représentation. Donc, les marques veulent que je représente la Belgique parce que pour ces défilés-là, il n'y a qu'une place pour toute la Belgique. Donc, je suis un peu l'ambassadrice belge qui vient pour montrer en fait que les attachés de presse belges font leur travail et qu'ils ont de la Belgique qui vient. Mais c'est surtout l'occasion pour moi de connecter avec toutes les personnes des marques, par exemple de Chanel, qui ne viennent pas forcément en Belgique, mais qui seront sur place là et discuter, et notamment de nos partenariats commerciaux, parce que c'est le nerf de la guerre. Donc, je vais être aussi là pour discuter avec eux des projets à venir, pour les prochains mois, etc., etc. Donc, mon rôle, il est plutôt un rôle de relations publiques, de représentante du L. Mais voilà, après, il y a toujours l'émerveillement du show et le fait d'être inspiré. Et moi, si je vois un show qui vraiment que je vais trouver époustouflant, bah, il est sûr que je vais lui donner de la visibilité dans le magazine. Hein. Donc au final, je reste journaliste et je vais parler du show. Et voilà, et quitte à faire une interview de Nicolas Gesquer, le directeur artistique de Vuitton, pour le mettre dans le magazine de septembre, par exemple.
Il est gentil? Il est cool?
Non.
Je viens d'avoir la question, mais en fait c'est une question peut-être essentielle parce qu'on non mais au-delà de ça, peut-être c'est essentiel parce qu'on ne se rend pas compte comment se fait la prise de contact en fait quand t'es dans ce bain là de Fashion Week où au final t'as des gens qui veulent plus se montrer, d'autres qui sont là plus pour bosser, d'autres qui ont été invités et qui ne savent pas vraiment ce qu'ils foutent là.
Ouais.
Comment toi, ce que tu fais, est-ce que t'as une carte de visite ou
non? En fait ça passe uniquement par les bureaux de presse. Je sais pas si vous connaissez les bureaux de presse et ce que c'est. Donc, c'est vraiment les relais, particulièrement en Belgique. Donc, vous avez la marque et puis vous avez des agences qui ont plusieurs clients, plusieurs marques et qui, eux, écrivent les communiqués de presse, organisent les événements pour les marchés locaux, particulièrement en Belgique parce que la plupart des marques n'ont pas en interne des personnes qui parlent le flamand. Et donc, ils ne connaissent pas cette culture. Et donc, c'est une manière d'être sûr que la communication soit appropriée à chaque culture locale. Donc, il y a les bureaux de presse. Et donc, nous, on passe toujours par les bureaux de presse quand on doit faire des demandes. Et les bureaux de presse sont aussi représentés pendant les Fashion Week. Donc, moi, je demande au bureau de presse qui passe la demande à la maison mère.
Mmh. Et en tant que Elle Belgique, c'est facile d'avoir des accès ou...
Assez facile, oui. Après, c'est toujours lié aux marques qui ont des magasins en Belgique.
Mmh. Quoi qu'il arrive.
Ouais. C'est-à-dire que je n'aurai pas de place pour un défilé pour une marque qui n'est pas présente sur le marché belge.
Ok, on va essayer de faire un exemple. Une marque. Quelqu'un aurait une marque belge?
Ah, une marque belge?
Ok, Madame von Fussberg.
Diane von
Fussberg. Voilà, qui est partie, il me semble qu'ils ont changé 2 fois de boss, surtout pendant le Covid. Je sais qu'il y en a une qui a fait 1 an et demi avant de se faire remplacer, enfin, celle qui est à la tête de la fashion, mais je ne m'y connais pas assez, du coup, je ne vais même pas tenter de...
Parce que TVF, elle n'est jamais partie de son...
Mais il
ça fait 50 ans que sa marque existe, ça fait 50 ouais. ans qu'elle est à sa tête.
Mais il y a une personne qui dirige le
ah,
truc
oui,
qui
oui,
est partie.
Qui dirige les collections. Et
deux fois. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, par exemple, pour cette marque-là, c'est très facile parce que tu joues sur l'attachement belge.
Ou... Oui, oui, par exemple, les marques belges, effectivement, on joue sur le fait que le créateur est belge. Mm-hmm. Et là, les relations sont plus faciles. On passe toujours par un bureau de presse. Mais par exemple, Diane, je peux lui envoyer un WhatsApp, tu vois. Donc ça, c'est plus pratique.
Non, ça fait 3 ans que je constate des faux plans. Quelqu'un d'autre?
Oui. Mais alors, moi, je l'ai interviewé quand il était très, très jeune. Je pense que c'était il y a 10 ans. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le catalogue La Redoute, faisait des collabs avec des très très jeunes créateurs. Et ils avaient choisi Simon Porte et moi j'étais jeune, je venais d'arriver à OL. Et là j'ai rencontré, il était super chouette, super sympa comme on le voit. Depuis, sa marque a pris voilà, énormément d'ampleur, il a pris énormément de responsabilités. Donc j'entends beaucoup d'échos comme quoi il est assez tyrannique avec ses équipes. Je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on adore casser les mythes et quand quelqu'un a l'air super sympa, c'est aussi un jeu de faire croire qu'il ne l'est pas. Après, je sais qu'aussi être directeur artistique, c'est énormément de pression, c'est énormément d'enjeux. Humainement, je ne sais pas comment ces gens y arrivent. Ils ont tellement de collections, ils ont tellement de pression. Je ne sais pas comment ils font. Donc, ça ne doit pas en faire toujours des personnes très agréables. Donc, voilà, moi, quand je l'ai rencontré, il était adorable. C'était vraiment un petit cœur, super gentil, très humble, très fun, très attaché à ses racines, voilà, on peut le voir sur les réseaux. Donc, voilà.
Ouais. Je trouve que c'est beaucoup, il y a beaucoup pas de cheveux, mais après c'est...
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait très très bien du marketing et qui arrive à la fois à être très bon en marketing et à défendre l'authenticité. Donc c'est pas facile à faire, mais je trouve qu'il y arrive très bien et ça fonctionne quoi.
Et
Olivier Roussin, j'ai jamais interviewé, c'est une de mes journalistes qui a fait une interview de lui récemment et qui Balmain.
Ah, je connais, c'est le meilleur ami de... Comment elle s'appelle la mannequin française, là... J'ai oublié.
Donc, lui, il paraît qu'il est très sympa. Après, bon, faut se dire, c'est un peu des divas, c'est toutes des queens, c'est des gens qui ont des énormes salaires, qui gèrent beaucoup de choses, qui brassent beaucoup d'argent, etc. Donc, au final... Mais que dans l'intimité, c'était un mec qui était très empathique et très agréable, gentil et passionné. Tu peux avoir des directeurs artistiques qui n'ont rien à foutre de toi, qui te parlent comme si tu étais une merde parce qu'ils se sentent supérieurs. Alors lui, en fait, je pense que lui, oui, c'est une posture. Je pense que s'il a en face de lui quelqu'un d'intelligent, il peut trouver un intérêt. Enfin, il pouvait.
Ce qui est logique.
Mais t'as des gens qui sont condescendants de nature aussi, mais Olivier Roussin, il paraît qu'il est plutôt simple.
Est-ce que tu penses que la sociologie des gens qui peuvent toucher plus facilement au monde de la haute culture fait qu'ils sont obligés d'avoir un certain ego ou...
Oui, je pense que ça va beaucoup avec. Mais ça change, tu sais, c'est comme avant, les rédactrices en chef, il y avait beaucoup d'ego aussi, mais je pense que le fait que ce soit un monde qui s'ouvre de plus en plus, ils sont obligés, tu vois, de descendre un petit peu de leur tour d'ivoire. Donc ça change. Mais,
Est-ce que vous pensez qu'un pop belgique est envisageable ?
Non. Non, on a beaucoup réfléchi à ça déjà et le marché est trop petit parce que Vogue, en fait, c'est très haut de gamme et la licence... Donc la licence d'exploitation qu'il faut payer tous les ans à la marque est très 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 chère. Et du coup, en fait, la Belgique est trop petite en termes de marché. Le fait qu'ils soient scindés en deux en plus entre flamands et francophones est beaucoup trop compliqué, n'est pas du tout rentable par rapport au prix de la licence. Donc c'est pas envisageable. Il y a eu un encart belge dans le Vogue Hollande pendant deux éditions et ça n'a pas marché. Deux, peut-être trois éditions, mais ça n'a pas marché.
Pharrell Williams chez
Vuitton, on en pense quoi? Alors, justement, j'ai écrit là-dessus récemment. Ah. Moi, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aime bien parce que je pense que c'est un digne successeur de Virgil dans l'idée où on a un homme noir qui est vraiment lié au streetwear, à la musique, qui va permettre de continuer l'héritage, de donner de la visibilité aux artistes noirs, à la communauté, etc. Je trouve que c'est très cohérent. Je pense qu'il a prouvé qu'il était créatif. Il a fait des collaborations avec eux. Il a fait plein de choses. Et donc, je crois que c'est un twist hyper intéressant. C'est-à-dire, c'est plus des couturiers, c'est plus des gens qui ont fait des études de mode, c'est juste des gens qui ont une vision créative. Et c'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent te brander un parfum, une paire de lunettes, une chaussure, un event, et qui peut te faire une musique et un track pour son défilé. Donc, je trouve que c'est super intéressant comme démarche. Du coup, je suis curieuse de voir à quoi va ressembler sa première collection, parce qu'on va, déjà la découvrir en septembre, je pense. Donc moi, je suis assez positive. Moi, j'aime bien quand il y a des changements, quand il y a des gens, des trucs qui shakent un petit peu les règles. Et en même temps, pour succéder à Virgil, il fallait quelque chose de puissant. Donc voilà, c'est bien.
Peut-être ma dernière question avant que quelqu'un pose la sienne. Justement, enfin, dans ce que tu dis, je pense à des gens comme Kanye West, pour peu importe ce qu'on pense de la personne, mais des esprits créatifs, ou aussi Lady Gaga, qui me semble qu'il a fait pour Polaroid aussi. Elle a été, je ne sais même pas comment tu appelles ton titre, mais pendant une période, c'est elle qui a dirigé la direction artistique. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec tous les influenceurs qu'on est aujourd'hui, est-ce que demain, si quelqu'un vraiment arrive à sortir du moule des réseaux sociaux, est-ce qu'il y aurait moyen d'en voir un vraiment en mode professionnel, genre il est passé des réseaux et maintenant c'est vraiment devenu une institution dans quelque
et
chose
si
d'établi.
Tu veux dire professionnel, parce que les influenceurs sont déjà des professionnels.
Dans le sens où
devenir un directeur artistique,
voilà,
ou...
non, qui est où le nom soit rattaché directement à une institution déjà établie, tout ce qu'il y a de plus col blanc, si tu veux.
Oui, bah, évidemment. Bah oui.
Lena Situation, Paola.
Il y a plein de... Alors, moi, ce que j'aime bien chez les influenceurs, c'est qu'ils gardent quand même toujours leur indépendance. Donc, effectivement, dans l'idée qu'ils soient récupérés entièrement et qu'ils aient plus leur truc perso, ça ne me dit rien. Mais par contre, qu'il y ait des collabs, qu'il y ait des influenceurs qui deviennent directeurs artistiques, etc., oui, ça existe déjà. Mais c'est intéressant, cette notion de institutionnaliser, genre comme récupérer, remettre dans un moule. Je pense que ça fonctionne pas en fait avec des créatifs comme ça. En fait, ils gagnent. Le principe d'être influenceur, c'est d'être indépendant dans ses choix, etc. Donc, ils peuvent insuffler cet esprit, mais je pense pas qu'ils puissent être remis complètement cadenassés dans une fonction.
Merci. Quelqu'un aurait une question de la fin? Peut-être un monsieur pour changer. Jordan, je sais que tu as des questions. Ben merci du coup.
Mais merci à vous.
Mais n'hésitez pas à lui parler, à faire une photo, ce que vous voulez.
Oui.
Et voilà.
Je pars.